Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. L'actualité économique de la semaine est marquée par les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui viennent de se tenir à Washington. Les institutions de Bretton Woods ont livré leurs nouvelles prévisions sur l'évolution des économies africaines. Dans cette émission, vous entendrez la directrice générale du FMI ainsi que l'analyse de notre économiste. Et en fin d'émission, nous nous rendrons à Addis Abeba, en Éthiopie. L'Éthiopie qui a annoncé sa candidature pour la CAN 2029, l'organisation donc de cet événement. Une candidature qui en a surpris plus d'un pour un pays qui sort d'une guerre dans le Tigré. Comment se porte donc l'économie éthiopienne? Vous aurez la réponse dans la Destination Écho. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, l'actualité économique africaine de la semaine est marquée donc par les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les institutions de Bretton Woods ont livré leurs nouvelles prévisions de croissance sur donc en Afrique. Et je vous propose d'écouter à ce propos Kristalina Georgieva. Elle est la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international.
We very strongly believe in the potential of Africa because the continent has.
Nous croyons fermement au potentiel de l'Afrique car le continent a une population jeune alors que le reste du monde vieillit. Il possède de riches ressources naturelles et nous avons vu des pays qui sont déterminés à mettre en place des politiques et des institutions fortes pour avoir une bonne gouvernance, qu'ils peuvent être des économies très performantes à croissance rapide. Nous avons été un partenaire solide et fiable pour l'Afrique. Lorsque la pandémie a frappé, nous avons été en mesure de mobiliser rapidement des financements d'urgence très importants. Ils ont bénéficié d'une injection de liquidités. Ensuite, nous avons fait quelque chose d'historique. Nous avons fourni à nos membres des contributions en droit de tirage spéciaux d'un niveau record. L'Afrique subsaharienne, plus particulièrement, a bénéficié d'une injection de 62 milliards de dollars de liquidités et de réserves du fonds au moment où les pays en avaient le plus besoin. Aujourd'hui, nous avons 25 programmes en Afrique subsaharienne et chose très importante dont je suis très fière, c'est en Afrique subsaharienne que nous avons le plus grand nombre de notre nouvel instrument de financement à long terme, car il s'agit d'aider les pays africains à faire face au changement climatique.
Et nous restons sur le sujet pour analyser ces perspectives économiques africaines avec l'économiste François Conradi qui vient de nous rejoindre. Donc, bonjour à vous François Conradi et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar.
Alors, que retenir des prévisions de croissance et de façon générale du comportement des économies africaines aux yeux donc du FMI et de la Banque mondiale?
Alors sur les prévisions, ce qui a frappé, c'est surtout les pays pour lesquels le FMI a révisé à la baisse ses prévisions. Les révisions à la baisse les plus importantes ont été pour le Sénégal, où un scandale de dette cachée et des doutes par rapport au calendrier de production d'hydrocarbures a rendu le fonds un peu moins optimiste. C'est la Zambie où une sécheresse va avoir des effets dévastateurs directs sur l'agriculture et aussi indirects parce que la capacité de génération d'hydroélectricité s'en trouve impactée. Et le Botswana. Alors le Botswana, c'est une histoire intéressante parce que c'est un pays qui dépend beaucoup de l'industrie des diamants. Et il trouve que les diamants synthétiques sont beaucoup plus populaires que ce qu'on aurait pu croire il y a quelques années. En revanche, le fonds se retrouve un peu plus optimiste sur l'île Maurice et légèrement plus optimiste sur le Ghana depuis la résolution de la dispute avec les créditeurs du pays.
Alors, donc là, ce sont des cas selon donc les économies, mais de façon globale, que disent le FMI et la Banque mondiale sur l'économie africaine, notamment en 2025?
Les prévisions ne sont pas radicalement changées, sauf sur certains pays dont on pourrait parler, mais l'effet est indirect si on peut parler de l'économie africaine. Dans sa totalité, l'effet du... Alors, ce qui se passe, c'est que, ou ce qu'on voit, c'est que la demande chinoise est plus faible que ce qu'on aurait pu croire au mois d'avril, la dernière fois qu'ils ont fait leurs prévisions. Et pour cela, tous les pays qui sont exportateurs d'hydrocarbures ou de cuivre ou de minerais de fer en trouvent leurs économies impactées. Donc, moins optimistes sur l'Afrique, à cause de la Chine.
Moins optimiste donc sur l'Afrique à cause de la Chine. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste donc à l'Oxford Economics Africa. Vous nous parliez depuis Casablanca sur donc ces prévisions de croissance sur l'économie africaine de la part du FMI et de la Banque mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation, François Conradi.
Merci Omar. À bientôt.
Zoom Express.
Et nous parlons d'éducation et de formation en Afrique, surtout de voir le potentiel et les opportunités de développement de cette filière, comment aussi la diaspora africaine essaie de réinvestir dans ce domaine pour en faire, donc pour assurer sa mise à niveau. Nous en parlons dans ce Zoom Express et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le directeur général de la plateforme Best Afrique, Mustapha El-Bourri. Bonjour Mustapha El-Bourri.
Bonjour.
Alors avec vous, bien évidemment, nous recevons donc Gildas Assibié qui est actif dans donc, ce domaine de la formation en Afrique. Bonjour à vous Gildas Assibié.
Bonjour, bonjour très cher ami. Bonjour Mustapha.
Alors, la première question, c'est tout d'abord aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui se dégagent dans cette filière, plus précisément, de formation sur le continent?
Aujourd'hui, c'est une mine d'or, je dirais, en termes de formation liée au numérique, au antique, les IA, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Surtout en Europe, ici et aussi en Afrique, parce que vous savez, tout ce qui prend d'ici, ça se retrouve finalement de l'autre côté aussi. La mondialisation, ça sert à cela. Mais le problème qui se pose généralement aussi, c'est qu'on aille vers vraiment les nouvelles technologies ou les nouvelles formations sans avoir une sorte d'ancrage. Et c'est là que vraiment nous faisons des copier-coller des systèmes qui après on se rend compte que vraiment la base n'était pas bien fondée, que la formation, même si elles sont ambitieuses, ne correspondent pas véritablement à nos réalités. Et c'est l'une des raisons fondamentales de la solution que nous avons créée aussi entre-temps sur le continent, notamment la Fondation Kids Speaker Programme, qui œuvre dans ce domaine. Voilà.
Alors, on va y revenir tout à l'heure, surtout notamment les solutions africaines, adaptées aux réalités africaines. Mais avant cela, je me tourne vers Mustapha El-Bourri. Mustapha El-Bourri, pensez-vous qu'il y a un intérêt de la diaspora africaine à investir ce domaine de l'éducation et de la formation pour l'amener à des niveaux qui permettraient peut-être au continent d'éviter de rater cette révolution numérique dont on parle?
Omar, en fait, comme Gildas l'a bien mentionné, c'est vrai qu'il y a, un petit fossé entre... Vous savez, l'éducation, ça fait partie des trois pôles les plus importants dans un pays. Il y a l'éducation, la santé et la sécurité. L'éducation vient en numéro un. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mises à niveau à faire. Et la diaspora, je pense très sincèrement qu'elle peut apporter, parce que bon, l'expérience à l'international, de voir un peu ce qui a été fait, mais encore une fois, comme a dit Gildas, il ne faut pas faire du copier-coller, parce que souvent, c'est l'erreur que les personnes font. Elles veulent apprendre un système qui existe en termes d'éducation, de formation, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, et faire du copier-coller et le mettre en place sur notre continent, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut vraiment l'étudier, prendre ce qui est à prendre, mais après, il faut l'adapter, d'où l'intérêt, encore une fois, de la fondation qu'a mis en place Gildas, qui est déjà très active dans plusieurs pays. Mais il est vrai que, oui, la diaspora a un rôle très important à jouer dans ce domaine.
La diaspora, donc, intéressée et qui a un rôle important à jouer donc, parmi donc, les ressortissants ou les membres de cette diaspora africaine, Gildas donc, Asibé. Alors, vous nous parliez de cette solution assez particulière que vous avez eu à mettre en avant. Quelle est cette solution?
La solution, c'est la Fondation Kids Speak Up Programme que j'ai créé avec certains collaborateurs, partie des constats vraiment de valeurs qui nous sont tant chères en Afrique, des valeurs identitaires qui définissent qui nous sommes. Et après, maintenant, aller vers des solutions très innovantes en termes de formation. Je prends l'exemple des Chinois, et parce que ben, aujourd'hui, nous voyons le système chinois qui est très ambitieux, où vraiment, il n'y a pas vraiment de question de complexe. Pendant longtemps, on les a traités de Shintok et autres parce qu'ils allaient de partout dans le monde pour découvrir, pour voir comment est-ce que ça se faisait. Ils se sont inspirés de pas mal de choses et ils sont rentrés, se renfermés sur eux pour travailler vraiment le fond, donc les valeurs identitaires, ce qui les ressemble, ce qui les appartient, en quoi est-ce qu'ils sont vraiment particuliers. Et partant de là maintenant, ils ont pu détecter des secteurs dans lesquels ils pourraient vraiment densifier leur type de formation ou créer des offres de formation pour pouvoir faire décoller leur agenda en termes de progrès. Et aujourd'hui, nous voyons très bien l'exemple où ils sont. Et c'est le même système, en fait, c'est notre optique, c'est notre vision avec le Kids Speak Up Programme qui est véritablement assez sur la transmission de valeurs, ces valeurs qui sont les nôtres, ces valeurs identitaires qui ne doivent pas disparaître. Quand on parle, par exemple, de la courtoisie, quand on parle, par exemple, du respect mutuel, quand on parle, par exemple, de la considération, c'est des choses que nous avons ancrées dans la culture africaine et auxquelles nous sommes vraiment attachés, mais qui disparaissent de plus en plus à cause de la mondialisation ou en voyant le système des systèmes à l'étranger. Je ne veux pas rentrer dans des points très spécifiques et alerter la toile, mais voilà, notre fondation est véritablement assise sur la transmission de valeurs.
Alors, qu'en est-il de l'intérêt des gouvernements et des acteurs économiques par rapport à cette orientation?
Vous savez, une entreprise, par exemple, a forcément besoin de personnes engagées au sein de leur structure pour pouvoir faire développer l'économie ou bien pour pouvoir faire développer les différents secteurs dans lesquels ils ont leurs employés. Donc, l'engagement qui fait partie aussi des valeurs africaines peut répondre. Une entreprise, par exemple, a besoin de certains types de compétences. Et en investissant dans des projets comme les nôtres ou bien en soutenant les activités, les initiatives que nous mettons en avance, au niveau, au bas âge, c'est qu'ils s'apprêtent, ils préparent les enfants à grandir avec des valeurs qu'eux, ils souhaitent ou bien des valeurs que nous partageons ensemble. Et comme ça, ça constitue déjà un véritable pont, véritable vivrier pour eux, pour le recrutement plus tard. Je ne vous le cache pas, là, oratoire, par exemple, c'est des choses qui font, ce sont des modules que nous enseignons aux enfants déjà au sein de notre programme, l'entrepreneuriat, la gestion de projets communautaires, le leadership, le développement personnel, c'est des sujets sur lesquels les enfants sont déjà densifiés au sein de notre programme.
En tout cas, c'est intéressant de vous entendre parler avec beaucoup de passion, Gildas Asibé. Donc, je rappelle que vous êtes actif dans donc, le secteur où on peut dire oui, le secteur de l'éducation, notamment donc dans la formation et cette mise à niveau donc du niveau de l'éducation aussi pour ne pas rater donc ce virage numérique dans la formation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à Moustapha El Bouri, donc directeur général du cabinet Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir été dans Coémergence.
Merci à vous.
Coémergence, l'invité.
Parlons de tourisme en Afrique. On sait que le continent, malgré son potentiel énorme, représente à peine 6% du tourisme mondial, une part qui pourrait se renforcer davantage si un segment du tourisme était réellement activé. Et ce segment, c'est le tourisme religieux. Justement, parlons de ce tourisme religieux en Afrique avec Awa Diakhaté. Elle est la directrice de Awa Amazing Collection, spécialiste du secteur touristique. Bonjour à vous, Awa Diakhaté, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Peut-on parler de tourisme religieux en Afrique?
Bonjour Omar, je vous remercie encore une fois de cette invitation. Oui, bien évidemment, on peut parler de tourisme religieux en Afrique. Le continent regorge de sites religieux et spirituels qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Et ce sont souvent des lieux de grande importance culturelle qui jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle des communautés locales. On parle non seulement de pèlerinage, mais aussi de la visite de lieux sacrés, des festivals religieux ou encore des retraites spirituelles.
Alors, je pense que c'est une belle entrée en matière. Quels sont aujourd'hui les exemples de tourisme religieux qu'on peut donner sur le continent?
Bien évidemment, un exemple marquant de tourisme religieux en Afrique, on peut parler du pèlerinage à Lalibela en Éthiopie. Lalibela est célèbre pour ses églises monolithiques taillées dans la roche, qui sont devenues des sites de pèlerinage très importants pour les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Au Maroc, on peut parler de l'exemple du Sénégal et de Fès. Fès qui est devenu un lieu très important dans le parcours spirituel de tout Sénégalais avec la confrérie Tijaniya. Je peux aussi parler de Touba, cette ville connue internationalement grâce à la communauté mouride qui organise chaque année un magal et qui reçoit des touristes sénégalais et non sénégalais du monde entier. Donc vraiment le tourisme religieux est très important, peut-être peu ou mal exploité au niveau de l'Afrique, mais c'est un tourisme qui existe.
Merci à vous, Awa, pour ces éclairages, mais une autre question s'impose. C'est un tourisme religieux qui existe donc, et certainement le cas du Maroc avec Fès est un bel exemple dans ce sens, n'est-ce pas, Awa Diakhaté?
Bien évidemment, on ne va pas parler du tourisme religieux en Afrique sans donner l'exemple de Fès. La ville de Fès est devenue un acteur majeur du tourisme religieux en Afrique, au Maroc, notamment avec le marché sénégalais. Donc chaque année, il y a de nombreux Sénégalais qui viennent faire le pèlerinage à la Zaouïa Tijaniya. Et j'ai même appris qu'il y a des pèlerins qui viennent du Niger, du Mali, du Tchad. Et ça, c'est tout au long de l'année. OK, on comprend pendant le Ramadan, il y a une affluence. Aussi, pendant les 10 premiers jours de l'année musulmane aussi. On ne va pas oublier le festival de la musique soufi, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes du soufisme. Donc, c'est vraiment une ville qui joue un rôle très important dans ce tourisme religieux. Il ne faut pas oublier de mentionner que Fès est l'une des villes impériales les plus anciennes, qui abrite aussi l'une des plus anciennes universités au monde, qui a été fondée par une dame. Voilà, il faut le mentionner, c'est important. La ville est aussi connue par ses madrasas historiques, ses mosquées et son patrimoine culturel islamique qui est très riche, d'où sa place en tant que ville de destination de tourisme religieux au Maroc.
Alors, une dernière question, un potentiel impressionnant donc, comme vous le dites, mais comment développer ce tourisme religieux en Afrique?
Pour développer le tourisme religieux en Afrique, il faut améliorer les infrastructures de transport et d'hébergement. Je pense que ça, c'est la condition sine qua non pour développer tout type de tourisme. Il faut faciliter l'accès aux pèlerins et aux touristes. Il faut renforcer les unités d'hébergement. Il faut les renforcer, mais aussi améliorer la qualité de ces unités d'hébergement. C'est très important. Il faut investir dans des campagnes de promotion ciblées pour faire connaître des sites religieux. Il y en a qui ne sont pas connus. Voilà. Il faut promouvoir les événements spirituels à un public beaucoup plus international. Il faut préserver le patrimoine parce que, par exemple, je sais que Tombouctou a été beaucoup visité, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est dommage. Donc, assurer la préservation et la restauration de sites religieux pour maintenir leur intégrité et attirer plus de visiteurs. Il faut établir des partenariats entre les gouvernements, les communautés locales, les organisations religieuses, développer des initiatives de tourisme durable, créer des programmes éducatifs et des visites guidées pour informer les visiteurs sur l'importance historique, culturel et spirituel des sites religieux. Et bien sûr, sans sécurité, on ne peut pas faire un tourisme. Donc, il faut garantir la sécurité des visiteurs et offrir des services adéquats, comme par exemple les guides multilingues, des brochures d'information et des installations de santé et de secours.
Merci à vous, Awa Diakhaté, directrice de Our Amazing Collection, spécialisée donc dans le tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation et plaisir de vous retrouver une prochaine fois dans Coémergence.
Destination Éco.
Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, nous nous rendons en Éthiopie, l'Éthiopie qui a annoncé sa candidature pour l'organisation de la CAN 2029, une candidature qui en a surpris plus d'un, surtout pour un pays qui vient de sortir d'une guerre dans le Tigré. Essayons donc de voir comment se porte l'économie éthiopienne et nous en parlons donc avec Idriss Lindjé qui est le directeur des rédactions du groupe Mediamania, éditeur donc de l'agence Ecofin, Idriss Lindjé qui nous parle de l'économie éthiopienne.
Alors, l'économie éthiopienne connaît une dynamique de croissance qui est notée, malgré le fait que le pays soit engagé dans des conflits avec plusieurs voisins. C'est le cas de l'Égypte, du Soudan, de l'Érythrée et même au niveau interne. Il y a ces tensions avec les tribus Oromo. En 2023, on lui reconnaît d'avoir eu un taux de croissance qui était de 6,5%. C'est un taux confortable parce qu'il est presque proche de la moyenne des pays africains. Cette croissance économique est plutôt inclusive parce qu'elle est soutenue inclusive, c'est-à-dire que c'est une richesse qui est créée et qui peut par la suite circuler au sein de la population et des agents économiques locaux parce que ça a été soutenu par la modernisation du secteur de l'agriculture, l'expansion des services, notamment les services financiers, les services bancaires, la reprise du secteur de la construction. C'est aussi un secteur qui est très dynamique. Et pour l'année 2024-2025, l'Éthiopie anticipe avoir une croissance supérieure qui va toucher les 8,4% du produit, de son produit intérieur brut. Donc, c'est une économie vraiment qui est très résiliente et qui, en effet, concentre un ensemble d'indicateurs qui lui permettent d'avancer.
Une économie éthiopienne qui ne manque pas malgré tout donc de défis à relever, mais aussi qui dispose d'énormes potentiels pour les investissements. Essayons d'en savoir davantage avec Idriss Lindjé.
Les secteurs spécifiques, l'agriculture, 32% du PIB. C'est rare que dans un pays africain, la croissance soit portée par l'agriculture, les services. L'Éthiopie est un pays de services, notamment grâce à la super compagnie Ethiopian Airlines, qui assure les transports des passagers sur presque tous les pays africains. Et nous avons aussi le secteur de l'industrie, qui est très fortement soutenu pour le moment par des investissements coréens et chinois, et qui représente jusqu'à 22,7% du PIB. Mais maintenant, il y a quelques défis, c'est que, en tout cas, pour les Éthiopiens, l'inflation est élevée, ce qui réduit le pouvoir d'achat. Donc, même si l'Éthiopie a un marché potentiel de 120 millions d'habitants, l'ingéniosité sera d'investir pour des unités de production qui permettent de rendre les prix compétitifs au niveau local, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a une pénurie des devises. C'est-à-dire que la capacité du pays à faire des paiements extérieurs, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dévalué leur monnaie. Et qui dit pénurie des devises dit difficulté à rapatrier, par exemple, les dividendes. Ça peut devenir très complexe. Et puis, il y a une dette publique qui continue d'inquiéter. Mais au-delà de cela, une bonne combinaison d'analyses pertinentes et d'investissements de long terme permettre de faire de l'Éthiopie une des économies les plus prometteuses du continent, avec une main-d'œuvre qualifiée, 120 millions d'habitants, et surtout un pays situé aux portes de l'Asie, aux portes de la Méditerranée, et pas très loin de l'Afrique australe, qui est un peu le boom économique de l'Afrique subsaharienne.
Merci à vous, Idriss Lingé. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions du groupe Media Mania, éditeur de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'actualité économique et financière du continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.